Edmond Abou, Épître aux bredouilles. Saverne, 1er septembre. Je ne serai pas des vôtres aujourd'hui, par la meilleure raison du monde, c'est qu'au lieu de chausser mes guêtres, de prendre mon fusil et d'offrir mes épaules à cette jolie petite pluie qui commence à tomber si gaiement, j'ai chaussé mes pantoufles, saisi une plume neuve et commencé la présente épître qui partira ce soir à 7 heures par le train-poste de Strasbourg à Paris. Or, on n'est pas bredouille lorsqu'on n'est pas sorti à la poursuite du gibier. Mais, comme dit le trop élégant traducteur de Virgile, je connais le malheur et j'y sais compatir. Oui, messieurs, moi aussi, je me suis levé quelquefois trop matin pour arpenter les chaumes à grandes enjambées et pour mouiller mes genoux dans la luzerne. Moi aussi, j'ai promené un chien mélancolique à travers des champs dépeuplés et je suis rentré à la maison par des chemins de traverse, cachant mon carnier vide à la malignité des voisins. Il n'y a pas à dire, le mot bredouille est ridicule. Sa termison rime avec je ne sais combien de mots disgraciés, citrouille, grenouille, andouille. Ouille est aussi malheureux en français que chotte en Espagne. Cervantes a changé quejada en quichotte et l'Espagne s'est mise à rire. Prenez le plus beau nom de France et le terminez en ouille, vous obtiendrez le même effet. La trémouille est une exception qui confirme la règle. Mais ce n'est pas seulement le mot bredouille qui est malencontreux. La chose est sotte. Un chasseur qui rentre au logis avec un chevreuil sur le dos, 4 lièvres dans le sac, 3 douzaines de cailles et de perdrix suspendues à la ceinture, est littéralement écrasé. Il ploie, il se tient mal, il a l'air d'un bossu, il est grotesque, si vous voulez, mais il n'a pas l'air sot. Il ne sera jamais ridicule. Les passants l'en verront peut-être, à coup sûr, ils ne penseront pas à lui rire au nez. Un beau jeune homme qui marche droit à 5 heures du soir, le fusil négligemment jeté sur l'épaule, le carnier flottant avec grâce sur le dos, n'est pas grotesque, mais pas du tout. En revanche, il est ridicule. C'est que le rire est une joie malicieuse qui s'éveille en nous au spectacle des petits malheurs d'autrui. C'est un mouvement égoïste et vaniteux causé par la vue des mécomptes dont nous sommes ou croyons être, exhorte nous-mêmes. On ne rit pas des gros accidents, de la mort, des blessures, de la misère en haillons, des désastres qui nous rappellent notre condition mortelle et la dépendance où le sort nous tient tous. Mais on rit aux éclats chaque fois qu'on signale un contraste entre les ambitions du prochain et ses succès, entre sa vanité et son mérite, entre son but et son point d'arrivée. Rien n'est plus réjouissant au 15 août que le mât de cocagne, parce qu'on y voit jusqu'à 25 ou 30 polissons s'élancer l'un après l'autre à la poursuite d'un couvert d'argent et retomber sur le derrière. Le système représentatif a planté sur le sol français une véritable forêt de bas de cocagne. Aussi, chaque élection a-t-elle le piquant d'une comédie. On rit de ceux qui tombent, fussent-ils 100 fois plus honorables et plus dignes que ceux qui arrivent. Ah, tant pis, le rire est impartial. Toute déception l'éveille, qu'elle soit ou non méritée. Y a-t-il un contraste évident entre ce que vous désirez et ce qui vous arrive ? On rira. Je ne sais rien de plus intéressant, de plus digne de pitié, de moins risible au fond, qu'un mari trompé par sa femme. Il faudrait avoir le cœur atroce pour refuser un peu de compassion au pauvre diable qui nourrit une coquine, élève des bâtards, travaille pour des ingrats, aime sans être aimé. Mais je crois aussi qu'on le plaint. Seulement, on commence par en rire. Que voulez-vous ? Il y a un contraste trop visible entre l'ambition de ce malheureux et le résultat qu'il a obtenu. Il s'est marié, c'est-à-dire il a affiché publiquement la prétention d'avoir une femme à lui seul, et à chaque fois que l'événement lui donne un démenti, le public se tient les côtes. La chose est d'autant plus comique qu'il ignore son infortune, et cette désinence en U dont madame l'a décorée. On le voit aller, venir, dîner de bon appétit, promener avec orgueil la scélérate qui le trompe. Il a le front serein et le visage épanoui. Plus sa gaieté contraste avec le malheur qu'il ignore, plus on s'amuse à ses dépens, et jamais les rieurs ne font un retour sur eux-mêmes. Jamais il ne s'avise de dire, avec le sage Gargantua, « Autant nous en porte à l'œil. » Les célibataires sont bien sûrs qu'on ne les prendra jamais au mariage. Les maris sont certains que leurs femmes les aiment et que, s'ils n'étaient plus aimés, ils le sauraient. Bonnes gens. Quant à nous, Brenouille, mes frères, nous sommes ridicules pour une ou plusieurs raisons du même genre. Premièrement, nous avons payé 25 francs le droit de vie et de mort sur tout gibier de poils et de plumes, mais l'État et la commune, qui se partagent notre argent, ne se chargent pas de nous donner des lièvres et des perdreaux en échange. C'est à nous de nous rembourser par nos mains. Or, le chasseur qui ne tue pas a l'air aussi nigaud qu'une cuisinière à la halle si les pigeons qu'elle a payés s'envolaient de son panier. Deuxièmement, nous avons fait les frais d'un fusil, d'un équipement complet, d'un costume plus ou moins pittoresque, qui ne permettent aucun doute sur nos intentions et rend notre espérance visible à nos concitoyens les plus obtus. S'habiller tout exprès pour un bal et arriver en voiture à minuit devant une maison démolie, c'est payer les frais d'un contraste assez ridicule. Se costumer en Robin des Bois pour tuer des perdreaux et revenir sans un pouillard, n'est-ce pas la même aventure? Troisièmement, une journée de chasse où l'on n'a rien tué, c'est une journée perdue, et nous vivons dans un temps où le riche lui-même n'a guère le moyen de perdre ses journées. Tous les hommes qu'on rencontre sur le chemin de la maison viennent de travailler utilement. Les faucheurs de regains qui reviennent des prés ont fait une besogne énorme depuis l'aube. Le garçon de labour qui ramène ses bœufs a labouré tout un arpent. Les ouvriers qui sortent de la fabrique ont fait leur tâche. Les enfants qui déboulent de l'école en poussant des cris aigus ont appris quelque chose. Tous ces gens ont un avantage marqué sur le chasseur Bredouille. Aussi se moquent-ils cordialement de lui. Oh, il dira peut-être pour son excuse que l'exercice et le grand air lui ont fait du bien. N'en croyons pas un mot, mes frères. Forçons-le d'avouer avec nous que l'exercice et le grand air n'ont jamais profité aux Bredouilles. C'est le chasseur heureux qui respire avec fruit et dégourdit inutilement les ressorts de ses jambes. Mais quand on revient Bredouille, on a le cœur aigri, et les meilleures chances du monde, qui sont l'exercice et le grand air, se tournent en poison. Quatrièmement, j'aborde avec fureur un détestable préjugé dont nous avons tous été victimes, et j'espère que pas un de nous ne refusera de faire chorus avec moi, car il s'agit de notre honneur. Que dis-je? Ce que je défends ici, c'est l'honneur de l'humanité tout entière. Lorsqu'on nous voit rentrer le cardier vide, les rieurs s'imaginent calomnieusement que nous avons manqué le gibier. Inutile d'insister sur les conséquences d'une idée si injuste et si fausse. S'il est vrai que nous ayons rencontré, tiré et manqué, nous encourons le plus insupportable de tous les ridicules. Nous passons pour des vaniteux maladroits. On dit autour de nous que nous avons eu trop de confiance dans nos moyens physiques, que nous avons spéculé sur la rapidité de nos mouvements, la fermeté de nos bras, la précision de notre coup d'œil, en un mot, que nous nous sommes crus infaillibles. Or, l'homme qui se croit infaillible est mal vu du public depuis un certain temps. La vérité, mes frères, c'est que nous ne manquons pas le gibier, ou du moins nous ne le manquons guère plus que les chasseurs heureux. C'est le gibier qui nous manque, et je le dis avec tristesse, il va manquant un peu plus à mesure que le monde se fait vieux. de chasseurs absolument maladroits, nés pour manquer, il y en a guère, et cela ne s'obstine point. Ils tirent leur épingle du jeu après les premières expériences. Pour transformer un lièvre en manchon, et même pour descendre un perdreau, il ne faut qu'une adresse et une expérience vulgaire. Aussi, mais vite. J'ai ici un lycéen qui a pris hier soir son premier permis de chasse, et ce matin, à 6 heures, il avait inscrit un grand lièvre à son actif. Les chasseurs les mieux doués arrivent à toucher une pièce sur deux. Les moins favorisés de la nature en touchent une sur 8. La moyenne est vraisemblablement d'un coup utile sur 4 ou 5. Il est donc à peu près certain, mes très chers frères, que personne ne reviendrait bredouille, et si tout le monde avait l'occasion de tirer seulement 10 coups dans la journée. Nous avons donc un problème à résoudre, la multiplication du gibier. Je vais me rencontrer probablement avec l'auteur de Tristia, notre cher et charmant Toussenel. Mais il est dans ma destinée de vagabonder ici, sur le terrain de tout le monde. Faute d'avoir un enclos qui m'appartienne, je suis forcé de vivre sur le commun, glanant après les moissonneurs, halebotant après les vendangeurs, braconnant après le plus spirituel et le plus aimable des chasseurs. Mais qu'importe, je me suis tout pardonné d'avance. D'ailleurs, si le problème appartient au maître qui l'a posé, la solution que je propose humblement est bien à moi. Nous sommes tous d'avis que la chasse est un exercice très sain pour ceux qui n'en reviennent pas bredouille. Nous souhaitons unanimement que le gibier multiplie assez sur nos 53 millions d'hectares pour que le plaisir du chasseur ne soit pas corrompu par la crainte du ridicule. Mais nous sommes d'abord honnêtes, gens, et nous ne longeons pas à nourrir notre gibier aux dépens du pauvre monde. Empoisonneuil de lièvre ou de lapin, le champ d'un paysan qui ne chasse pas, mais celui manger sa récolte après l'avoir transformée en viande. Les grands seigneurs, qui s'adjugeaient autrefois le privilège de la chasse, grugeaient le laboureur par l'entremise de leur gibier. La justice veut absolument que tout plaisir soit payé par ceux qui en jouissent à celui qui en fait les frais. Nous sommes démocrates, et la sainte égalité nous est plus chère que nos plaisirs. Nous pensons donc que la chasse doit être permise à tout Français sans exception, pourvu qu'il paye sa part du dégât. Car on ne saurait trop le dire, toute viande se nourrit sur le sol. Et dans un pays où le sol est cultivé sur presque toute son étendue, les chevreuils, les lièvres, les lapins, les perdrix représentent une certaine quantité de récoltes détruites. Vous n'avez pas le droit de faire paître vos bœufs ou vos moutons dans l'herbage du voisin. Et pourquoi feriez-vous pâturer vos lièvres dans son trèfle, vos lapins dans ses choux, vos chevreuils dans ses bois, vos perdrix dans son blé ? Il semble juste, à première vue, que tout Français puisse chasser n'importe où. Le gibier libre n'appartient à personne. Ainsi le disent les vieilles lois. Il est la proie de celui qui sait le prendre. Pour moi, je ne sais rien de plus inique que cette théorie. Elle ne tend à rien moins qu'à immoler les intérêts d'une moitié de la nation au plaisir de l'autre. La récolte appartient à ceux qui ont semé, et le gibier est absolument à la charge de l'agriculture. Il serait odieux qu'un industriel, un rentier, un marchand, celui qui n'a jamais tiré du sol la pitance matinale d'un lièvre, celui qui n'ayant pas un hectare en bien fond n'a jamais pu fournir une poignée de grain à la perdrix, une grappe de raisin à la grive, se donna sans indemnité le plaisir de la chasse, qui est une récolte au second degré. J'ai parlé de ce qu'elle dévore et je n'ai rien dit de ce qu'elle gâte. Mais nous savons tous, mes chers frères, que les chasseurs, les chiens rencontrent tous les jours des récoltes sur pied, qu'ils battent ces remises et qu'ils les foulent toujours un peu. Il est juste que cela se paye. Si le paysan froissait, tâchait ou écornait la moindre chose dans la boutique d'un marchand, il la paierait. J'ajoute que si tout le monde avait le droit de tirer sans payer, l'achat deviendrait une industrie et créerait parmi nous une population dangereuse. C'est un mauvais métier, fort amusant, je l'avoue, et cher aux esprits vagabonds, mais qui rapporte moins qu'il ne coûte. Les pièges et lacets mis en joint, moins coûteux que la poudre, feraient une terrible concurrence aux fusils. On prendrait des mesures répressives. Mais les braconniers, par état, deviennent en peu de temps des hommes terribles. Je n'insiste pas sur ce point. À quoi bon? La chasse gratuite pour tous serait, au bout d'un an, la chasse interdite à tous. Il n'y aurait plus de gibier. Et nous désirons qu'il y en ait toujours, et qu'il y en ait, s'il plaît à Dieu, plus qu'il n'en reste. C'est nous, mes frères, qui depuis 30 ans importunons l'État de nos requêtes et l'adjurons de nous faire un peu de gibier. Nous nous sommes mal adressés, ce me semble. L'État ne couve pas les œufs des perdrix. Il est impropre à l'allaitement des levreaux. Il a cru nous rendre service en élevant à 25 francs le prix des permis de chasse. Nous n'y avons gagné qu'à ne payer 10 francs de plus. On trouve moins de lièvres en plaine depuis qu'il en coûte plus cher pour les tirer. Donc quelques-uns d'entre nous demandent une trêve de Dieu qui permette au gibier de réparer ses pertes. Mais les plus sensés de la bande assurent que la suspension générale du droit de chasse ferait la partie trop belle aux braconniers. L'État pèse gravement ses raisons et pense que nous ferions mieux de pourvoir à nos plaisirs nous-mêmes. Il a tant d'affaires sur les bras sans la nôtre. Eh bien, je vous propose une combinaison fort simple, qui se recommande par plusieurs années de pratique et de succès à l'étranger. J'ai parcouru à quelques lieues d'ici des plaines où le gibier foisonne tellement qu'il faudrait faire exprès et être très adroit pour en sortir bredouille. Vous devinez que je parle de l'Allemagne, et vous avez raison. Mais si vous croyez qu'il s'agit de l'Allemagne féodale, vous avez tort. Voici le mécanisme ingénieux et simple grâce auquel les paysans et les petits bourgeois du Grand-Duc de Bade font foisonner le gibier jusque dans les jambes des chasseurs. Tous les propriétaires d'un village mettent leurs terres en commun pour la chasse et ils afferment le tout au plus offrant. Ils savent que, par ce moyen, ils établissent chez eux une véritable fabrique de perdreaux et de lièvres, que leurs récoltes seront un peu rongées par-ci par-là, un peu foulées, qu'ils n'auront plus le droit de toucher au gibier qui les gruge. Mais en revanche, ils encaissent une somme assez ronde au profit de la commune, et la commune, c'est eux. L'allocation de la chasse dégrève leurs impôts d'autant. Ils paieront en moins l'équivalent du déficit qui va peser sur leur récolte. Chacun se trouve indemnisé au prorata de ce qu'il perd. Le locataire le plus offrant, qui prend la chasse à bail, surveille, exploite, récolte son gibier à sa guise. Il ajoute du lièvre ou du perdreau ou du faisan si le paysan manque. Il fait garder le tout à ses frais et poursuit soigneusement les braconniers. Il agit comme un éleveur sur une propriété louée. Il veille sur ses troupeaux et les protège contre les loups. Ce plus offrant n'est pas un grand seigneur. C'est presque toujours une association de petits bourgeois qui comprend les paysans les plus aisés de la commune. Vous me demanderez peut-être comment un simple paysan peut entrer dans les frais d'une telle exploitation. Assurément, le droit de chasse lui coûte plus de 25 francs par an à celui-là. J'en conviens. Mais reste à savoir s'il est plus avantageux de donner 25 francs pour revenir bredouille ou d'en donner 100 en échange de 200 francs de gibier. Car ces petites associations garanties contre le fléau de braconnage encaissent en gibier plus qu'elles ne dépensent. J'en sais une qui payait 600 francs de fermage en 1864 et qui réalisait, tout frais payés, un bénéfice de 600 francs. Qu'en pensez-vous, mes frères? Qu'en disent les communes de notre cher pays et ces conseils municipaux qui n'ont pas tous de quoi nourrir un instituteur ?